Métropolez-vous.
Métropolez-vous.
Métropole et vous.
Métropolez-vous, une émission présentée par Éric Dupri.
Bienvenue à l'écoute de Radio Présence et de Métropolez-vous pour une émission qui prolonge notre série dédiée à la faune dans la métropole toulousaine. Nous y avons déjà fait un point sur les espèces d'oiseaux présentes sur le territoire métropolitain. Nous avons consacré un numéro à la nature en ville et à la nécessaire cohabitation avec la faune sauvage qui y vit. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux populations de poissons que l'on trouve dans les cours d'eau et plans d'eau à Toulouse et dans les communes alentours. Je rappelle qu'il n'y a pas que la Garonne qui traverse certaines communes métropolitaines. C'est le cas également de plusieurs de ses affluents et sous-affluents, sans oublier bien sûr le canal du Midi, ouvrage inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, mais aussi milieu de vie pour de nombreuses espèces piscicoles. Quel est l'état écologique et halieutique de ces fleuves, rivières et canaux? Quels poissons y trouve-t-on? Et plus encore, comment évolue leur population depuis 10 ou 15 ans? Voilà les questions auxquelles nous allons essayer de répondre au cours de cette émission consacrée à la situation des populations piscicoles dans la métropole toulousaine. Et pour cette émission sur les poissons qui vivent dans les eaux de la métropole toulousaine, je ne pouvais rêver meilleur interlocuteur que Gaël Durbe, le directeur de la Fédération de pêche de la Haute-Garonne. Bonjour monsieur et merci d'avoir accepté de participer à cette émission où vos connaissances des milieux aquatiques vont nous être très précieuses.
Mais bonjour à tous et merci beaucoup pour cette invitation.
Nos auditeurs n'étant certainement pas au fait de l'organisation de la pêche en France, est-ce que vous pouvez préciser le statut des fédérations de pêche? Comment elles sont organisées et ce que sont leurs missions et actions, notamment ce qui concerne la connaissance et la protection des milieux aquatiques.
Alors les fédérations de pêche, c'est les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection des milieux aquatiques. C'est une association, une loi 1901, qui est reconnue d'utilité publique depuis la loi sur l'eau et les milieux aquatiques de 2006 pour les actions de connaissance et de protection sur les milieux aquatiques. C'est une structure qui ne se finance quasiment à 95%, 99% que par les cartes de pêche pour la Fédération de pêche de Haute-Garonne. Donc c'est l'argent des pêcheurs qui va venir, en plus d'autres choses, abonder pour la protection des milieux. Donc on a notre argent qui est investi dedans, l'argent qui paye les techniciens et qui finance un peu les APPMA investis dedans, plus le loisir en lui-même qui permet d'avoir des sentinelles au bord des cours d'eau, puisque très souvent quand il y a des problèmes de pollution, c'est des pêcheurs qui appellent, parce qu'ils ont quand même une certaine sensibilité par rapport à ça, et puis ils sont là aussi parce qu'ils pêchent et qu'ils regardent les milieux et qu'ils les surveillent, entre guillemets, à travers leur loisir. Les fédérations sont structurées par des conseils d'administration qui sont des élus d'APPMA, des présidents d'APPMA, qui forment des listes au niveau départemental et après sont élus. À l'heure actuelle, on a 16 élus et 4 conseillers techniques. Et au niveau de nos effectifs salariés, on a 11 salariés, dont 3 personnes gèrent une pisciculture de production de truites fario dans le Comminges. Pour parler des missions, on a une mission de développement du loisir pêche, donc accessibilité des sites, gestion des baux de pêche, la réglementation, l'organisation du loisir à travers le partage des usages, et les empoisonnements dans certains secteurs et sur certains milieux, notamment pour pallier aux fluctuations de peuplement dues aux perturbations anthropiques ou au fait que c'est des milieux parfois artificiels qui ont des fonctionnements qui ne sont pas toujours fluides. Et donc, du coup, on compense les trous de peuplement par des empoisonnements. Et après, on a une partie protection des milieux aquatiques, une mission qui est d'autant plus grandissante ces dernières années. Donc, on fait un suivi interannuel des peuplements sur le département. Au niveau des fédérations, je crois qu'on a un des plus gros réseaux qui existent par rapport à ça. Et c'est un réseau de connaissances de biodiversité ordinaire qui est assez massif, qui permet après de prendre des décisions et de voir à long terme l'évolution des peuplements. Des suivis thermiques, où on pose des thermographes aussi pour suivre la problématique de réchauffement et de fonctionnement des milieux. Et puis des études sur diverses thématiques concernant les peuplements piscicoles en relation avec des scientifiques et d'autres fédérations. On fait des suivis spécifiques de reproduction pour certaines espèces, de fonctionnalité des milieux. On suit des chantiers de restauration des milieux naturels qui sont souvent organisés soit par nous, soit par les syndicats de rivière. Et puis des sauvetages lors de travaux en rivière et une expertise en relation avec les services de l'État, de la préfecture, de la direction départementale des territoires, pour expertiser les conditions de travaux pour essayer qu'elles impactent le moins possible les poissons et que les poissons en place lors des travaux puissent au mieux être préservés et éviter de tuer ces poissons. Donc ça résume à peu près la majorité de nos actions. Et on a encore aussi un gros travail de réunions en tant qu'expert sur pas mal de questionnements sur la gestion des étiages, les travaux, donc là, notamment au niveau de la préfecture. Voilà. Donc, on est aussi sollicité dans pas mal de réunions d'études qui sont faites par le conseil départemental, l'agence de l'eau et autres, qui sont nos partenaires. Donc, au niveau des partenariats, le principal, c'est l'agence de l'eau d'Haute-Garonne. Il faut savoir que les pêcheurs, quand ils prennent la carte de pêche, la totalité ne va pas à la Fédé ni aux APP. Une grande partie va aussi à l'État par la redevance des milieux aquatiques. Et cet argent est reversé via des accords que l'on a sur des actions qui sont orientées milieu aquatique. Études, accompagnement des maîtres d'ouvrage, animation pour la sensibilisation. Et on a aussi quelques subventions qui peuvent être demandées sur certaines lignes budgétaires au niveau de la région, du département. Et bien sûr, les APPMA collaborent avec les mairies. Comme toute autre association, peut avoir des subventions et des aides suivant des projets spécifiques ou par rapport à des subventions à l'échelle annuelle.
En parlant de partenariats ou en tout cas d'institutions avec lesquelles vous êtes amené à travailler, il y a aussi VNF, Voies navigables de France, lorsqu'il y a des
Alors,
travaux par exemple sur des écluses du canal du Midi.
voilà, alors ça, c'est un partenariat, bien sûr, puisqu'on collabore avec eux, mais c'est des choses qui peuvent être faites par d'autres prestataires, hein, c'est des sauvetages. On encadre les travaux, bien sûr. On a un gros bagage de connaissances sur le fonctionnement de ces vidanges, ou parfois même nous, on sait mieux que ce qui va se passer quand ils vont vider certaines parties, puisqu'on le fait, notre structure le fait depuis des dizaines et des dizaines d'années. Et donc on le fait sur le canal du Midi avec VNF, mais sur la métropole, il y a aussi une partie du canal de Saint-Martory, sur la rivée autour de la zone de la Ramée, où là, il y a eu encore des vidanges qui ont été très compliqués, parce que pour la première fois depuis que les plus anciens de nos salariés travaillent dessus, on n'avait jamais vu, c'est-à-dire que le canal fermé sans alimentation Garonne coulait encore avec 25 cm d'eau à cause des pluies qu'il y a eu. Donc ça a été très compliqué, on s'est adapté, on connaît les secteurs qui craignent, donc on a ce métier-là. Et donc du coup, on a Réseau 31 avec qui on collabore aussi sur ces choses-là. Puis après, il y a EDF par rapport au barrage, il y a certains centraliers aussi qui, de manière récurrente, ont besoin de vidanger leurs canaux pour faire des travaux et avec qui on collabore pour faire des sauvetages. Alors, on fait ça pour préserver les poissons, mais parfois, on va avoir des bief qui vont rester en eau, où la pêche est interdite, mais où on va laisser les poissons parce que ben, ils ne sont pas en danger, il y a suffisamment d'eau dedans. Petite prévention auprès des auditeurs, n'allez surtout pas essayer de récupérer vous-même les poissons quand vous voyez des poissons et qu'il vous semble qu'ils sont en danger. Parce que le canal du Midi, c'est quand même un piège, il y a de la vase. Et parfois, on sort les poissons pour ça aussi, pour éviter que des personnes se mettent en danger.
Nous allons nous concentrer, hein, sur la faune piscicole dans la métropole toulousaine en commençant par une présentation des cours d'eau et des plans d'eau qui la traversent. Donc, je vais parler de la Garonne, tout le monde connaît, mais quels sont sinon ses principaux affluents et sous-affluents qui traversent également le territoire métropolitain?
Alors, ben, on a la Garonne, hein, l'axe principal. Donc, sur la métropole, on va considérer globalement que c'est de la confluence de l'Ariège en descendant jusqu'à la confluence de l'Hers Vif, à peu près. C'est un cours d'eau fortement altéré, hein, et tous les cours d'eau ont été fortement altérés par nos différentes actions d'extraction, de blocage des flux sédimentaires via les barrages et d'usage de l'eau. On a donc, du coup, dans l'ordre, en remontant, en descendant depuis Portée, on a la Sodrune en rive gauche, qui est un cours d'eau qui traverse une zone fortement urbanisée, qui est réalimentée par le canal de Saint-Martory. Dans le même sens, un cours d'eau plus important, on a le Touche, qui conflue avec la Garonne à Blagnac en rive gauche, l'Ossonnel un peu plus bas à Seille, et l'Hers-Mort en rive opposée en amont de Grenade. Les premiers cours d'eau que j'ai cités en rive gauche sont réalimentés par le canal de Saint-Martory. Le second, l'Hers-Mort, est lui réalimenté par la Ganguise. C'est des cours d'eau qui ont été extrêmement impactés par les activités humaines et l'anthropisation des milieux et la réflexion de rectification et de protection contre les crues. Depuis les années 60-70, avec la mécanisation, on les a curés, on les a sclérosés, on les a bloqués parce que ben, ils dérangeaient un cours d'eau qui divague et qui déborde. Ça pose des problèmes au niveau des infrastructures humaines, sauf qu'un cours d'eau qui divague et qui déborde est un cours d'eau qui fonctionne. Et à partir du moment où on le sclérose et on l'empêche de bouger, de divaguer et de se recharger en sédiments et en éléments organiques type branchage et bois, ben, c'est un cours d'eau qui lentement se dégrade. Et ça, on a de plus en plus conscience, on en avait moins conscience il y a une trentaine ou une quarantaine d'années. Et on s'aperçoit malheureusement que la première cause, malgré tout ce qu'on peut entendre, l'une des principales causes de déclin des biomasses vient de là aussi. Et c'est quelque chose qui se voit. Pourquoi? Parce que ben, même malgré tous les éléments qui sont généraux, hein, de problématiques de phytosanitaires, de problématiques de débit. Sur les endroits où, par hasard, on a des structurations plutôt préservées, ben, les peuplements de poissons se trouvent plutôt pas mal. C'est des petits endroits, il n'y en a pas beaucoup parce qu'il y en a une forte altération. Mais voilà, donc ça, c'est la première chose. C'est des cours d'eau qui sont quand même très altérés pour ça. Après, on a aussi les plans d'eau. Sur la Toulouse métropole, alors on en a tout un panel, hein, plus ou moins grand. C'est majoritairement des extractions de gravières, et après c'est des plans d'eau de Garonne, hein, sur le barrage, comme le plan d'eau du centre-ville, hein, les plans d'eau du centre-ville. Mais on a principalement la Ramée, les grands lacs de la Ramée, le lac du Bocage vers Fenouillet, une trentaine d'hectares, les lacs de la Martine, du côté de Roques, et on a aussi le lac de la Bèche, aussi très en vue sur la partie sud de la métropole.
Et puis bien sûr, le canal du Midi, canal de
Tout à
Brienne.
fait. Canal du Midi, canal de Brienne, par lequel il y a une réalimentation depuis la Garonne qui va vers le canal latéral, puisque ça coule depuis le seuil de Nourouze vers Bordeaux. Et donc on a une différence de fonctionnement. Donc on a un canal de Brienne, un canal du Midi. C'est des secteurs un peu plus troubles, un peu plus chauds, avec un peu moins de débit. Puis après, on a le canal latéral qui prend beaucoup plus d'eau via les réalimentations de Garonne. Et là, qui a un cours d'eau un petit peu plus clair et un peu plus froid, et qui se réchauffe progressivement en partant vers le Tarn-et-Garonne.
Alors on en vient aux espèces de poissons que l'on trouve dans ces cours et plans d'eau métropolitains.
Alors, on a les espèces d'eau courante dans les cours d'eau et les espèces d'eau lentique. Il faut savoir que les espèces d'eau lentique, type carpe, gardon, rotangle, brème, poisson-chat, perche-soleil, qu'on trouve principalement dans les plans d'eau et aussi sur le canal du Midi, sont aussi présents en moindre mesure dans les cours d'eau. Et après, sur les carnassiers, on est sur des perches, black bass, brochets, cendres et silures. Et sur les cours d'eau, il faut rajouter le barbeau, le chevesne, des ablettes, goujons, loches, vairons principalement. On a des petites espèces un peu particulières. On peut trouver de la blennie fluviatile. C'est une espèce de petit gobie qu'on trouve aussi sur le canal du Midi. On peut avoir de la grémille. Et il y a tout un petit cortège d'espèces qui sont en train d'arriver. Le spirlin, qui est une espèce de petite tablette qui vient des milieux méditerranéens, qui a colonisé le la Garonne il y a quelques années. Le pseudo-rasbora, donc le goujon de l'Adour, qui est aussi un petit goujon argenté. Voilà, on a plusieurs espèces comme ça qui arrivent. Et puis, il ne faut pas oublier, parce que du coup, il y a les migrateurs. On a un déclin fort, hein. Les aloses montent très très peu sur la zone métropolitaine depuis une trentaine d'années. Les saumons, on en a moins d'une dizaine qui arrivent dans le secteur de Toulouse Métropole ces dernières années. Je crois qu'il en est passé deux au Bazac. Et après, on les transfère beaucoup pour faciliter leur migration et essayer de relancer leur reproduction via l'association Migado sur la zone ariégeoise depuis quelques années, donc sur la partie à Valfoy. Et l'anguille, alors ça c'est la bonne nouvelle ces dernières années, c'est-à-dire qu'on a, grâce aux efforts sur les franchissements de l'association Migado, on a une recrudescence de montée de l'anguille avec cette année plus de 400 000 poissons qui sont remontés à Golfech, qui se sont dispersés sur l'amont de la zone tarn-et-garonnaise. Et d'ailleurs, l'anguille est présente dans pas mal de secteurs.
Quelles évolutions des populations mettent en évidence les pêches d'inventaire ou les observations que vous pouvez faire dans les cours d'eau de la métropole toulousaine, notamment dans la Garonne?
Alors, il faut déjà considérer que soit via les sauvetages, soit via les suivis de Migado, c'est nos principales informations. Les grands milieux très profonds pour les pêcher, c'est quand même assez compliqué. Donc, on a aussi ces informations par rapport aux pêcheurs, hein. Comme je l'ai dit, c'est un cours d'eau qui, peu à peu, à part sur les zones de barrage, a décliné quand même en termes de production générale. Par exemple, le cendre était très très présent il y a 30 ou 40 ans. Alors là, après, ça a été un de mes premiers travaux en rentrant à la FEDE il y a quelques années. Le cendre, lui, dans d'autres milieux fortement anthropisés, comme les retenues collinaires qui sont très troubles, se porte très très bien. Dans certains milieux, comme le Tarn aussi, se porte très très bien. Le canal du Midi se porte très très bien. Paradoxalement, il décline sur la Garonne parce qu'en fait, la Garonne est tout simplement, mais avec nos efforts pendant 40 ans de baisse des effluents, on a clarifié un peu la Garonne, on l'a reclarifiée avec une eau beaucoup plus pur que dans les années peut-être 60, où on épurait beaucoup moins. Et c'est un poisson lucifuge et qui aime la surproduction en petits poissons. Et donc, lui, il s'est un peu effacé. Il s'est un peu effacé. Donc, ça, c'est la chose qui a émergé. Les gens pensent que c'est récent, mais ça fait de nombreuses années que le silure est arrivé sur le secteur. Il faut quand même compter qu'il y a des introductions datées de 70. Hein. Donc, ce n'est pas d'hier que le poisson est arrivé là. Alors, le silure, pour reparler du silure, c'est un poisson qui fait couler beaucoup d'encre dernièrement. Nous, on se pose la question, bien évidemment, on le suit dans différents milieux par rapport à nos inventaires. Clairement, on ne voit pas de choses très nettes. Hein. Quand le milieu est structuré et fonctionnel, le silure rentre dans l'écosystème et ne va pas faire décliner fortement les autres espèces. Hein. Par contre, dans des endroits très déstructurés, on va être très clair, hein, la Garonne à l'aval du Bazac, il n'y a plus un caillou dedans, ça s'appelle rivière à cailloux à la base. Maintenant, on est sur de la marne qui s'incise. Quand vous êtes sur une dalle, la production d'invertébrés, l'auto-épuration, la formation de biofilm, elle est beaucoup moins importante que quand vous êtes dans un lit de galets. Donc, vous avez une baisse globale et vous avez besoin d'un poisson qui s'adapte. Un poisson qui s'adapte, c'est un poisson qui va accepter différentes conditions de température et qui va pouvoir se nourrir quelle que soit la situation. Prenez un poisson de 2 mètres, ben, il va pouvoir manger des rongeurs, il va pouvoir manger des oiseaux, il va pouvoir manger des poissons. Prenez un poisson qui va faire 20 cm maximum, si vous lui enlevez des invertébrés, ben, il va décliner. Et tout simplement, vous avez cette dynamique-là. Les autres fédés sont OK là-dessus et dès que techniquement on parle aux fédérations, alors les pêcheurs ont certains avis, peut-être, mais techniquement, on se penche dessus depuis quelques années. Et il n'y a rien d'avéré sur, on va dire, l'impact sur les espèces de manière globale, sur les écosystèmes de manière globale, qui est autre chose que l'impact du silure sur nos aménagements, qui sont les premiers aménagements à impacter les populations migratoires. Il faut pas oublier quand même que le saumon a déjà disparu dans les années 45, 1945, hein, rien que par le barrage, il n'y avait pas encore le silure. Donc il y a quand même des choses à mettre en avant, à dire tout n'est pas noir et tout n'est pas blanc, et c'est pas aussi simple qu'on peut le penser.
Concernant le silure, quelle taille peut-il atteindre dans la Garonne, dans sa traversée de la métropole toulousaine?
On a des poissons qui avoisinent les 2 mètres, qui peuvent monter un peu plus à 2 mètres 10, 2 mètres 20. On est dans ces eaux-là. C'est des poissons qui ont des dynamiques de croissance très longues, hein, des poissons qui vont mettre 25 ans à atteindre ces tailles-là. Donc petit à petit, ça grossit. Voilà, ça peut être favorisé par le réchauffement climatique aussi, parce que c'est toujours plus favorable quand les températures sont plus chaudes pour la croissance. Mais voilà, on est aux poissons autour de 2 mètres.
Concernant les espèces dites invasives, est-ce qu'on en trouve dans la Garonne, par exemple les écrevisses de Louisiane, est-ce qu'il en a?
Alors, il y en a. Par contre, très très clairement, dans les milieux d'eau courante, on n'a pas d'espèces invasives dans le titre des classements, genre poisson-chat, perche-soleil. On a des nouvelles espèces qui arrivent, qui peuvent amener des nouvelles pathologies. On les suit, plus ou moins, comme le pseudorasbora pour une maladie qui s'appelle l'agent rosette, qui pose quelques problèmes de production sur les cyprinidés. On a des endroits où on se pose des questions. Après, c'est des études qui sont parfois beaucoup plus complexes à faire et qui dépassent peut-être les compétences, enfin, on va dire la capacité d'action des fédés, parce qu'on a beaucoup de choses à faire, donc on ne peut pas non plus se concentrer sur qu'une seule chose. Mais c'est quelque chose qui, voilà, qui interpelle. Après, les écosystèmes, il y a une plasticité quand même à long terme. Et ce qui dérange beaucoup, ben, les pêcheurs et l'homme en général, c'est quand ça fluctue, quand ça change, en fait. Les changements posent problème. Après, de manière globale, il y a toujours une espèce qui va s'auto-réguler ou autre. On peut le dire, hein, le poisson-chat, par exemple. On parle d'espèces exotiques envahissantes. Nous, à l'échelle du département, à l'heure actuelle, son classement, maintenant, c'est devenu un non-sens. Il y a 15 ans est arrivé l'herpès virose du poisson-chat. Il a régulé les choses sur le canal du Midi, là où on sortait 3 tonnes de poisson-chat par vidange. Ben là, maintenant, on sort quelques poissons-chats. Ils sont intégrés dans l'écosystème. Ils ne dominent jamais. Ils dérangent peut-être parfois quelques pêcheurs au cou parce qu'ils sont beaucoup plus adaptés pour détecter les zones d'amorce. Mais de manière globale, sur les inventaires et les vidanges, c'est fini. Les tas de poissons-chats qu'on faisait, les camions d'écarissage qu'on enlevait, ça n'existe plus. Et c'est le cas aussi sur les plans d'eau. L'écrevisse de Louisiane, un autre problème, plutôt sur les gravières. Donc pour des milieux artificialisés quand même, qui chauffent beaucoup. Mais par contre, des fois, on a des réadaptations avec des peuplements de poissons qui vont les consommer, et du coup, il va y avoir une autorégulation.
Alors, il y a une autre espèce à laquelle je pensais qui est parfois pointée du doigt sur la baisse des populations de poissons, qui n'est pas une espèce piscicole, celle-là, c'est le cormoran. On en voit évidemment hein, sur la Garonne, au Bazac, à Toulouse ou ailleurs. Est-ce qu'on a pu mesurer l'impact de la prédation des cormorans sur les populations de poissons de la Garonne?
Ben, c'est bien le problème, c'est-à-dire que sur des grands milieux et des grands plans d'eau, quand vous n'avez pas les capacités de faire de la quantification, la mesure est complexe. Après, sur la sensation qu'on a quand on a une animation ou sur des plans d'eau, ça fait 20 ans qu'on fait pêcher les enfants et que nos animateurs, ça fait 20 ans que tous les ans, ils font plusieurs animations dessus et qu'ils ont des résultats réguliers sur la pêche du gardon et que lorsqu'on vient depuis 3 ans sur ces endroits-là et qu'on n'arrive pas à attraper un gardon, on a quelque chose qui n'est pas scientifiquement prouvé, mais qui est très très clairement validé et mesurable à dire d'experts. Et de toute façon, quoi qu'il en soit, il n'y a pas besoin de faire de grands calculs. Les comptages ces dernières années sont passés 2 fois 4 ans sur les dortoirs, en l'espace de 3 ans depuis l'arrêt des tirs de régulation. et des oiseaux qui vont devoir consommer 500 grammes de poissons par jour, quand on démultiplie leurs effectifs, il n'y a pas photo, ils vont avoir une influence par rapport à la biomasse totale de poissons. C'est une évidence, en fait. Maintenant, la déontologie qu'on a de considérer depuis longtemps de manière assez close que les oiseaux sont en déclin, que tous les peuplements d'oiseaux sont en déclin, il est très difficile du coup d'aborder le sujet de la régulation sur les oiseaux par rapport à leur image et à la façon dont on a de vouloir les préserver. Ça se défend, il n'y a aucun problème. Moi-même, je suis naturaliste hein, pour d'autres choses que pour le poisson. Mais par contre, on a là un peuplement d'oiseaux en expansion comme on a rarement vu. Donc peut-être qu'une nouvelle réflexion pourrait avoir lieu. Donc le sujet global de la problématique de la régulation est le fait que les outils techniques, et il n'y en aura pas d'autres qui seront inventés demain, ne permettent pas de faire de quantification sur des grands milieux. Donc on ne peut pas évaluer. Mais nous, on le voit très clairement et ça nous inquiète par rapport aux effectifs de pêcheurs, bien évidemment.
Alors, autre sujet, vous avez parlé de la détérioration de l'habitat pour certains poissons de la Garonne avec un fond qui est maintenant essentiellement constitué de marnes. Par contre, ce qu'on voit apparaître depuis quelques années, c'est des grandes zones d'herbiers lorsque l'eau se réchauffe à la fin du printemps et notamment des renoncules d'eau sur la Garonne. Est-ce que c'est une conséquence du réchauffement de l'eau, donc du réchauffement climatique? Et après, qu'est-ce que ça a comme conséquence sur les populations de poissons?
Alors, pour les poissons, il n'y a aucun souci, c'est bénéfique. C'est support de ponte de certaines espèces parapluies, dites parapluies, donc qui sont synonymes de bon état de milieu, comme le brochet. C'est source directe de nutriments pour d'autres espèces. C'est habitat pour des invertébrés, pour pouvoir nourrir certains invertivores. Donc, il n'y a aucun souci sur le fait que c'est embêtant pour la pêche, certes. Ça peut être dérangeant pour d'autres activités, mais c'est source de fonctionnalité pour les milieux, c'est sûr. Les plans d'eau qui sont recouverts d'herbiers sont embêtants à pêcher, sont souvent poissonneux pour ceux qui savent s'adapter. Si jamais, et comme on a eu fait dans le temps, on met des carpes amour pour réguler tout ça, les espèces de carnassiers qu'on trouvait quand il y avait les herbiers, ils disparaissent après. Les effectifs chutent. Donc ça, on le sait, c'est clair et net. Trois choses par rapport aux herbiers. L'histoire des effluents agricoles. Il faut savoir que la société, dans ses soucis d'épuration et autres, par rapport aux effluents, a baissé de 80% ses apports en phosphore sur les 40 ou 50 dernières années sur les milieux naturels. Donc, en gros, c'est pas avec des nouveaux affluents ou autres. On a des nutriments dans l'eau qui suffisent et les herbiers sont là de manière naturelle sans rajouter de nutriments dans l'eau. La partie, on réalimente en organique et ça pousse plus que d'autres. Nous, sur nos milieux, c'est pas vraiment le sujet. Ce qu'on voit en termes de dynamique, par contre, c'est que les crues printanières, notamment les crues très fortes et morphogènes, donc les crues qu'on peut voir en hiver mais qui interviendraient pendant le cycle de développement des herbiers, peuvent fortement couper la croissance. La turbidité aussi, récurrente, pendant les crues de printemps, peut bloquer le développement. Et du coup, on a des cycles en fonction des crues. Par exemple, de 2012 à 2018, au niveau des herbiers sur la Garonne en général, on a vu quelque chose qui n'était pas très très développé. Depuis 2018, on n'a que des crues hivernales, on a peu de grosses crues printanières, ou pas ou peu. Et du coup, on a un développement des herbiers qui est récurrent. Mais si jamais ce printemps, avec la neige qu'il y a, on se retrouve avec des fortes crues au mois de mai-juin, on pourrait avoir ou de la turbidité récurrente, on pourrait avoir une baisse des herbiers. Et deuxième dynamique, on parle souvent d'herbiers qui sont dans des zones qui sont reliées à des plans d'eau. Ces plans d'eau se charge en sédiments avec le temps. Et plus la hauteur d'eau baisse, plus les herbiers vont avoir des capacités à être dans des profondeurs où ils vont pouvoir se développer. Donc il y a aussi cette double dynamique qui est une dynamique aussi à long terme d'envasement des plans d'eau.
Une question là qui ne concerne pas la métropole toulousaine, mais je voulais quand même vous la poser. Qu'est-ce que donnent vos pêches d'inventaire sur les zones dites à truites, donc la première catégorie, à l'amont de Toulouse, sur la Garonne et les affluents de la Garonne? Comment se portent les populations de truites sauvages?
Sur les secteurs où le milieu est fonctionnel, où les sédiments ne sont pas bloqués, où la rivière a un habitat correct, il n'y a pas de grosses fluctuations. On a des stations récurrentes depuis 15 ans, 20 ans. Ça ne bouge pas forcément. Il y a des fluctuations, des hauts et des bas, des années plus ou moins en fonction des crues et de la reproduction ou autre, mais on reste sur quelque chose chez nous qui va fluctuer. Ça va peut-être être un peu plus fluctuant à cause d'étiages un peu plus importants, de crues d'hiver un peu plus fréquentes, mais par contre, notamment sur le peuplement de poissons de taille classique, pour l'instant, sur les zones où la température est bonne, hein, bien sûr, bien évidemment, on voit bien que, sans parler de pêche, sur les zones aval où la température était déjà un peu limite il y a quelques années, la limite aval de la répartition de la truite est remontée. Clairement, depuis 20 ans, elle remonte petit à petit. Ça, on sait très bien que par rapport au réchauffement climatique, on ne pourra pas y couper. Par contre, de manière globale, et ça, j'en parle pour la truite, mais pour tous les autres milieux, on voit très bien maintenant que le premier levier à avoir en réflexion poisson, et c'est de plus en plus sur ça qu'on met nos efforts, c'est les habitats. La structuration des habitats, des zones de frayère, des zones d'abri, des zones de cache. Vraiment, c'est notre assurance. On voit bien que ben, certaines espèces en alevinage ne fonctionnent pas et ne fonctionneront jamais si on ne met pas les habitats pour leur permettre d'habiter à l'endroit. Vous prenez des bus de personnes, vous les mettez dans le Sahara, ils vont jamais y vivre. Si vous aménagez, vous allez pouvoir les loger, les faire boire et ainsi de suite. C'est une base très très classique et ça marche pour tous les milieux, toutes les espèces.
Eh bien, il est temps de conclure cette émission. Merci beaucoup, Gaël Durbe, pour toutes ces informations. Je ne sais pas si nous aurons fait le tour de la question, mais je pense que nous aurons donné une bonne idée de la situation des populations piscicoles dans les eaux libres de la métropole toulousaine. Pour ceux que ça intéresse, je rappelle que l'ouverture à la pêche à la truite a lieu cette année, le samedi 14 mars. Et je vous invite à consulter le site de la Fédération de pêche de la Haute-Garonne pour vous tenir informé de toutes les actions qu'elle mène et éventuellement pour acheter en ligne votre carte de pêche. www.fédé-pêche31.com. Ce numéro de Métropolez-vous était animé par Éric Dupri, à la technique Jonathan Botello. Rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Je vous souhaite à tous un très bon week-end.
Merci beaucoup.
Métropolez-vous. Métropole et vous.
Métropolez-vous, une émission en partenariat avec Toulouse Métropole.